Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Chers fidèles, en ce jeudi saint au soir, la Sainte Liturgie nous fait revivre cette dernière soirée émouvante que notre Seigneur passa avec ses apôtres avant sa passion. Pendant toute sa vie, notre Seigneur avait désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec ses disciples. Aussi, il veilla à la préparer avec soin. Pour cela, dès le matin du jeudi saint, il envoya à Jérusalem ses deux disciples les plus considérables, Pierre, le futur chef de son Église, et Jean, le disciple qu'il aimait spécialement à cause de sa virginité. Sans doute pour ne pas éveiller l'attention de Judas, il ne leur donna pas le nom de l'endroit où aurait lieu la scène. Il dit juste à Pierre et Jean de suivre jusque dans sa maison un homme qu'il rencontrerait à l'entrée de la ville portant une cruche d'eau. Il devait lui dire « Le maître te fait dire « Où est la pièce où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et le maître des lieux, sans doute un disciple secret de notre Seigneur, leur montrerait une vaste salle toute meublée. C'est ce qui arriva. Pierre et Jean passèrent alors le reste de la journée à préparer le repas pascal. Il fallait aller au temple, y faire immoler un agneau et l'apprêter. Chaque année, en effet, les Juifs, conformément à la loi qui leur avait été donnée par Moïse, commémoraient la première Pâque où Yahvé les avait délivrés de l'esclavage des Égyptiens pour les conduire dans la terre promise en Palestine. Dans la journée qui précéda leur départ d'Égypte, Moïse avait demandé aux Hébreux d'immoler dans chaque famille un agneau mâle sans défaut, âgé d'un an. Avec le sang de l'agneau, on avait aspergé le linteau et les montants de la porte. Quant à la chair de l'animal, rôtie au feu, elle devait être mangée avec des pains sans levain et des herbes amères. Le mot « Pâque » vient d'un mot hébreu qui veut dire « passage ». En effet, dans la nuit, Dieu passa. Il traversa le pays d'Égypte, frappant de mort les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, n'épargnant que les maisons marquées du sang de l'agneau. Après cette catastrophe, qui était la dixième plaie d'Égypte, le Pharaon laissa les Hébreux quitter le pays et retourner en Palestine. Lorsqu'ils furent installés en Terre Sainte, les Juifs commémorèrent chaque année cette Pâque lors d'un repas sacré où l'on chantait des psaumes et où l'on mangeait l'agneau pascal. C'est pour fêter cette Pâque ancienne et en inaugurer une nouvelle que notre Seigneur arriva donc le jeudi saint au soir au Cénacle avec ses apôtres. Ce qui va se passer maintenant peut se diviser en trois parties que l'on pourrait intituler « La préparation à la communion », la consécration et communion, et l'action de grâce après la communion. Préparation à la communion. Tout commença par la célébration de la Pâque juive. Durant sa vie terrestre, notre Seigneur avait voulu accomplir tous les points de la loi de son Père. Non seulement pour qu'elle soit accomplie une fois à la perfection, mais aussi pour la clore. En présidant ce soir-là le repas pascal, notre Seigneur mit un point final à la liturgie de l'ancienne loi. Cette liturgie, en effet, était tout entière figurative. Elle devait donc un jour laisser la place à ce qu'elle préfigurait. L'agneau pascal qui était immolé figurait, annoncé à l'avance, notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, dont le sang répandu sur la croix obtiendrait la réparation de nos péchés et nous délivrerait de l'esclavage du démon. Après avoir été immolé, l'agneau pascal était mangé. Notre Seigneur, le nouvel et le véritable agneau pascal, se donnerait à manger en nourriture dans le sacrement de l'Eucharistie. Enfin, la Pâque juive, qui commémorait le passage de Yahvé en Égypte pour délivrer son peuple. La Pâque juive annonçait le jour où Jésus passerait de ce monde à son Père et où il ferait passer avec lui de la vie mortelle à la vie éternelle tous ceux qui auront été marqués de son sang par les sacrements, tous ceux qui auront cru en la valeur de son sacrifice. Mais pour les introduire à de si grands mystères, notre Seigneur voulut d'abord préparer ses apôtres. Jésus se leva de table, déposa ses vêtements et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis versant de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. C'est l'évangile que nous venons de lire. Avant d'instituer l'Eucharistie, notre Seigneur voulut en effet insister sur deux dispositions fondamentales pour recevoir ce sacrement, l'humilité et l'état de grâce. Humilité tout d'abord. Il se mit à genoux devant ses apôtres et de ses mains divines qui avaient guéri tant de malades, calmé la tempête, ressuscité les morts. Il lava les saletés et les poussières amassées autour de leurs pieds, car on marchait à leurs pieds nus. Notre Seigneur voulait par ce geste briser la dureté de nos cœurs orgueilleux. S'il s'est abaissé jusqu'à nous en allant jusqu'à prendre notre nature humaine, à laver les pieds de ses créatures, eh bien nous, c'est aussi en nous abaissant que nous irons jusqu'à lui. Il faut nous approcher de Jésus hostie avec une vive conscience de notre faiblesse, de notre misère radicale. Humilité est synonyme de vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous des malades et que nous devons nous rendre à la Sainte Table, non pas par convenance sociale pour suivre tout le monde, mais avec un grand désir d'être guéri par le divin médecin. Mais il y a une autre condition absolument indispensable pour nous approcher de ce sacrement, c'est que notre âme soit lavée du péché. À Saint Pierre qui se récusait en disant « Ah Seigneur, jamais vous ne me laverez les pieds !» Notre Seigneur répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête, répliqua Saint-Pierre, toujours enthousiaste. Celui qui a été lavé, répondit notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui est en état de grâce, n'a plus besoin que de se laver les pieds, c'est-à-dire, expliquent les pères de l'Église, n'a plus besoin que d'effacer ses péchés véniels. Cette réponse de notre Seigneur nous enseigne deux choses. L'Eucharistie est le sacrement de la charité, le sacrement qui signifie notre union avec notre Seigneur et qui est destiné à l'augmenter. Si nous ne lui sommes pas unis par l'état de grâce, il faut d'abord nous faire laver par notre Seigneur dans le sacrement de pénitence. Celui qui mange de ce pain et boit de cette coupe indignement mange et boit sa propre condamnation, vient de nous rappeler saint Paul dans l'Épître. Notre Seigneur fit d'ailleurs ici une allusion discrète à Judas en disant « Vous êtes purs, mais pas tous ». Mais même si l'on n'a pas de péché mortel sur la conscience, il faut, pour nous préparer à la communion, nous purifier de nos péchés véniels en demandant pardon de tout notre cœur. C'est ce que nous faisons en particulier dans le confiteor du début de la messe et dans celui qui précède la communion. Pour revenir à la comparaison employée par notre Seigneur et expliquée par les pères de l'Église, laver la tête et les mains, cela signifie aller se confesser de ses péchés mortels. Laver seulement les pieds, cela signifie nous purifier de nos péchés véniels, ce que l'on peut d'ailleurs faire sans la confession. Bien sûr, le sacrement de pénitence est également utile pour les péchés véniels, car la grâce sacramentelle que nous recevons dans ce sacrement est d'une efficacité beaucoup plus grande pour nous remettre les péchés véniels que tous les actes intérieurs que nous pourrons faire. Il est même conseillé, lorsqu'on communie fréquemment, de se confesser fréquemment pour mieux préparer notre âme à recevoir le divin médecin dans le sacrement d'Eucharistie. Consécration et communion. Cette cérémonie du lavement des pieds que la liturgie va nous faire renouveler dans quelques instants étant terminée, Jésus reprit ses vêtements et se remit à table avec ses apôtres. Leur âme était préparée, alors notre Seigneur pouvait se donner à eux en nourriture. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Notre Seigneur ne parlait pas ici de la Pâque juive, mais de la Pâque chrétienne qu'il venait inaugurer, la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est comme s'il avait dit « Je désirais moi-même être votre Pâque, être l'agneau immolé pour vous, et non seulement immolé, mais mangé par vous. » Notre Pâque, c'est d'être uni à notre Seigneur pour passer avec lui du monde à Dieu. Mais ce passage est une mort. L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement qui nous unit à notre Seigneur, elle est aussi un sacrifice. Elle est d'abord un sacrifice. Jésus aurait pu instituer ce sacrement lors du miracle de la multiplication des pains, qui annonçait l'Eucharistie, ça aurait été très convenable. Non, Jésus a voulu l'instituer dans la nuit même où il fut livré. Saint Paul vient de nous le rappeler. Et Jésus le sait. Un de vous me trahira. Celui qui met la main dans le plat avec moi me trahira. Et en anticipation de sa mort qui aura lieu le lendemain, notre Seigneur sépara par avance son corps et son sang en les consacrant l'un après l'autre devant ses apôtres. Lorsque nous communions donc à un sacrifice. Nous mangeons une victime qui a été immolée sur l'autel, de manière non sanglante, mais non moins réelle. Car à la messe, comme à la dernière scène, notre Seigneur dans son âme et dans les mêmes dispositions qu'à la croix, il s'offre à son Père en sacrifice. Notre Seigneur s'immole sur nos autels pour se donner à manger à nous en état de victime, afin de nous unir à son sacrifice, afin de nous entraîner dans son sacrifice, car il nous faut passer nous aussi par la croix pour arriver à la gloire. Communier, c'est donc mourir, mourir au péché, mourir au monde, mourir à Satan pour vivre avec Jésus. Communier, c'est aussi unir à la croix de Jésus toutes les croix physiques et morales permises par la Providence pour justement nous aider à mourir à nous-mêmes et à ce monde. Et comme dans la communion, c'est Jésus qui nous transforme en lui, c'est lui qui nous donnera par la communion toutes les forces dont nous avons besoin pour porter ces croix qui nous feront passer de la mort à la vie et un jour à la gloire. Vous voyez les conséquences de nos communions et ce que le fait de communier doit changer dans notre vie. Ajoutons ici qu'en ayant dit au moment de la consécration « Faites ceci en mémoire de moi », notre Seigneur avait en même temps communiqué à ses apôtres le pouvoir de renouveler son sacrifice. Il les avait ordonnés prêtres. Le Jeudi Saint ne commémore pas seulement l'institution de la Sainte Eucharistie, il commémore aussi l'institution du sacerdoce. Et cette journée est une journée spéciale de prière pour les prêtres et pour les vocations de prêtres. Cependant, cette soirée du Jeudi Saint, si extraordinaire, a en même temps un aspect dramatique. À minuit, au jardin des Oliviers, trahi par l'un des 12, le pasteur va être frappé et le troupeau dispersé. Le lendemain, au pied de la croix, il n'y aura que Notre-Dame et Saint-Jean. On ne sait même pas où est passé Saint-Pierre. Attention quand même, il est faux de dire que les apôtres ont perdu la foi. Leur péché n'a pas été de renier notre Seigneur dans leur cœur, mais d'avoir peur de paraître ses disciples et d'avoir été lents à croire. D'ailleurs, Saint-Pierre croisa le regard de Jésus juste après son reniement extérieur, et il pleura. Son reniement ne lui fera d'ailleurs pas perdre non plus sa primauté. C'est à lui, en premier, avant les autres apôtres, que notre Seigneur apparaîtra ressuscité au jour de Pâques. Mais cette déroute des apôtres, le Jeudi Saint au soir, et le Vendredi Saint et le Samedi Saint, était une image de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui la passion de l'Église. Comme l'apôtre Saint Jean, tenons-nous tout près de la Sainte Vierge, au pied de la croix de Jésus, sans perdre l'espérance, parce que le Vendredi Saint est toujours suivi du dimanche de Pâques. Mais revenons au Cénacle. Ayant communié ses apôtres, notre Seigneur leur révèle maintenant l'union d'amour qu'il veut réaliser avec eux par ce sacrement. C'est le discours après la scène, relaté par l'apôtre Saint Jean dans son évangile et qui est une sorte de longue action de grâce que notre Seigneur fait faire à ses apôtres après leur communion. C'est une invitation pour nous, si nous voulons que nos communions portent des fruits, à toujours faire un certain temps d'action de grâce pour permettre à notre Seigneur de nous transformer en lui. Pour faire ce magnifique discours après la scène, notre Seigneur a attendu que Judas soit sorti. Il était indigne de l'entendre et incapable de le comprendre. Les apôtres ne le comprendront d'ailleurs eux-mêmes parfaitement qu'après la Pentecôte. Nous ne pouvons pas le commenter en détail ici, nous vous recommandons d'en faire la lecture dans les heures qui viennent, peut-être par exemple au reposoir tout à l'heure. Il nous faut maintenant continuer la cérémonie du Jeudi Saint. La liturgie va nous faire revivre tout ce qui s'est passé dans cette dernière soirée de notre Seigneur avec ses apôtres. Le lavement des pieds, puis la consécration et la communion. Ensuite, nous nous rendrons en procession au reposoir, derrière le Saint-Sacrement, de la même manière que les apôtres sont sortis du Cénacle derrière notre Seigneur pour se rendre au Jardin des Oliviers. Et au reposoir, nous prierons ce soir en union avec notre Seigneur souffrant dans son âme pour tous nos péchés jusqu'à avoir une sueur de sang. Demandons la grâce d'entrer pendant ces heures dans les sentiments de notre Seigneur et notre Dame afin d'obtenir le pardon de tous nos péchés et de nombreuses grâces pour la conversion des pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.